Nous sommes en compagnie de Roger Maurice Bonnet et on questionne l'avenir de l'homme sur la Terre et à l'horizon des 100 000 ans, des 1000 siècles à venir. Pas de planète de rechange, vaisseau spatial de l'humanité, vous l'avez dit. Nous pouvons sans doute le faire. Alors, je voulais questionner avec vous la Terre comme objet spatial, objet astronomique, sous ce regard de vaisseau. Quand on a un vaisseau et que c'est une planète, on commence à faire l'inventaire des ressources, si je puis dire. Aujourd'hui, est-ce que l'inventaire des ressources de la Terre est bien fait, est connu, et comment va-t-on vivre en équipage, nombreux, solidaires, on l'espère, avec ces ressources-là? Cet inventaire est réalisé aujourd'hui?
Bon, on a un inventaire global. On sait, pour des raisons astronomiques, c'est pas étonnant que des astronomes s'intéressent à ces ressources globales de la planète. Les abondances universelles des éléments de la Terre sont à peu près conformes à celles du Soleil. Donc on sait combien il y a de fer dans le Soleil, combien il y a de silicium, etc., combien il y a d'aluminium, combien il y a de phosphore. Tout ceci, nous le savons à peu près en proportion. Le problème, c'est que sur la Terre, à quel endroit ça se trouve? C'est pas homogène. Donc il faut savoir si tout l'aluminium se trouve dans la région de l'Australie ou de la France, est-ce que tout le cuivre se trouve au Chili, etc., et combien de temps ça va durer. Et c'est ça le problème qui est grave, c'est qu'effectivement, il n'y a pas cette homogénéisation qu'on trouve dans le Soleil, où tout est mélangé sur la Terre. L'effet des mouvements et des refroidissements et de l'activité volcanique ont fait que, finalement, tout ça s'est réparti de façon un peu bizarre. Donc, est-ce qu'on a fait l'inventaire complet ? On sait à peu près aujourd'hui que pour certains éléments, on a fait l'inventaire, sauf découverte absolument extraordinaire. Pour prendre un exemple qui parle le plus, il semblerait qu'aujourd'hui, on a plus d'or dans les banques que dans le sous-sol de la Terre. Donc, on aurait pratiquement extrait tout l'or disponible. Le cuivre, qui est un métal qui était relativement commun il y a un siècle, devient une ressource qui est l'objet d'appât des cambrioleurs et des voleurs. Et donc on vole le cuivre aujourd'hui. Donc c'est une ressource qui va se dégrader parce qu'on l'utilise de plus en plus, et quand on en a de moins en moins, donc elle prend de plus en plus de valeur. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs en cours de bourse, mais il faut regarder les choses sur une valeur, sur un espace de temps beaucoup plus grand que celui de l'année ou même de la semaine. Il y a des ressources en voie d'extinction parce que elles se dispersent, elles sont devenues impossibles après à recycler. Dans 100 ans, il y aura pratiquement plus de platine. Essentiel pour, si on maintient les voitures, pour faire marcher les voitures, on n'aura plus d'indium. Il y a un certain nombre de ces éléments qui vont disparaître. Donc il faut trouver des éléments alternatifs. Donc ces ressources-là, les ressources minérales, nous en faisons l'inventaire dans ce livre, et nous donnons les valeurs à 100 ans, parce que ça c'est ce qu'on peut donner. Si dans 100 ans il n'y en a plus, c'est plus la peine d'en parler, donc il faut regarder les alternatives possibles. Nous regardons aussi le problème de l'énergie, évidemment, parce que ça, c'est en fait le problème principal, c'est celui de l'énergie. Si vous avez suffisamment d'énergie, et nous estimons un maximum de 65 TWh, qui est à peu près 10 fois plus que ce que nous consommons aujourd'hui, et qu'on peut obtenir par différents moyens, pas un seul, mais une addition de plusieurs moyens, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, un petit peu d'énergie géothermique, mais qui est très difficile à utiliser parce qu'elle est diffuse, et surtout la fusion nucléaire. Si cette fusion nucléaire expérimentée aujourd'hui à Cadarache est utilisable, elle est relativement propre, elle est renouvelable, elle utilise les ressources naturelles, l'hydrogène, le lithium, etc., qui sont en abondance sur Terre.
Pour faire brutal, on peut dire que l'énergie à bord du vaisseau Terre, pour chauffer ou pour climatiser, c'est à horizon de 2 siècles au maximum, vu ce que l'on consomme aujourd'hui et ce qu'on utilise aujourd'hui comme ressources pour alimenter. Ça veut dire qu'il y aura nécessairement un changement majeur, il faudra un changement majeur d'éléments énergétiques pour pouvoir justement chauffer ou climatiser le vaisseau spatial.
Tout à fait, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. On ne voit pas assez, mais on le voit. On voit que les gouvernements, les agences chargées de ces problèmes se préoccupent de ce qui viendra après l'ère pétrole. Nous avons vécu une époque un peu idéale, presque fictive, ou je dirais pas virtuelle parce qu'elle était bien réelle, du pétrole, où le pétrole était une valeur économique nettement en dessous de son prix, de son vrai prix. Et nous avons vraisemblablement atteint aujourd'hui le maximum de production des ressources pétrolières sur Terre, même si de temps en temps on trouve une poche dans l'Arctique qui est considérée comme très riche ou dans les côtes, au large des côtes du Brésil.
Ça change pas la donne.
Ça change pas la donne, parce que quand on l'aura épuisé, on sera exactement dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, il nous faut effectivement nous pencher sur les énergies alternatives. Alors, je ne crois pas, nous ne croyons pas beaucoup à l'utilisation des biocarburants dans ce livre, parce que nous pensons que c'est aussi dangereux que le pétrole, d'une part. On pallie la disparition du pétrole, mais on crée les mêmes problèmes, et puis surtout, on épuise les sols, on épuise la fantastique capitale d'agriculture dont on a besoin pour vivre. La survie sur Terre, c'est l'agriculture. Et donc, nous avons là un vrai problème de trouver des énergies alternatives. Nous en estimons le nombre à peu près 6, dont j'ai donné la liste tout à l'heure, qui, selon des proportions différentes, selon les pays et selon les capacités de production de ces pays, vont pouvoir assurer l'avenir en énergie électrique de la planète pour 11,5 milliards d'habitants, qui est notre modèle d'habitation, à un niveau de consommation d'énergie 10 fois plus grand que celui d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est... Mais ça exige immédiatement la recherche d'énergie alternative. Et l'effort majeur, et c'est le grand message que nous transmettons là-dedans, c'est faisons marcher ITER. Faisons marcher ITER avec tous les cerveaux dont on a besoin pour que ça marche et pour faire que ça soit propre.
Est-ce que vous partagez les vues des climatologues qui aujourd'hui réunis dans ces organismes intergouvernementaux pour l'évolution du climat alertent de façon de plus en plus importante sur le bouleversement gigantesque attendu de l'augmentation moyenne des températures entre 2 et 5 degrés à horizon de la fin du 21e siècle, c'est-à-dire une transformation radicale, fondamentale, très importante pour l'homme sur la Terre, des conditions de vie qui pourraient amener des migrations, qui pourraient amener beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Nous consacrons deux chapitres au problème du climat, qui est un problème qui est lié essentiellement à notre survie, non pas dans 100 000 ans, mais aujourd'hui, dans 100 ans. Ce livre est un ode à la science et à l'éducation. Est-ce que les activités des groupes intergouvernementaux du type du GIEC, je pense que c'est celui-là auquel vous faisiez allusion dans votre question, c'est pas le seul, mais il y en a un autre qui vient de se créer sur la biosphère qui est à peu près équivalent, est-ce que les scientifiques qui sont dans ces groupes font un travail scientifique ou est-ce que ce sont des groupes de pression, des gens qui sont dans un bandwagon, comme on dirait en américain. Notre opinion, en tant que scientifique, et en tant que scientifique qui regardons comment fonctionne le système d'analyse scientifique, c'est-à-dire basé sur des découvertes liées à de nouvelles données ou à l'utilisation de modèles, mais qui sont revus par les spécialistes du domaine, ce qu'on appelle le peer review system, le système de revue par des pairs, PAIRS. Est-ce que ce système est en vigueur dans les organismes intergouvernementaux ? Si oui, il nous offre aujourd'hui la meilleure garantie d'une analyse scientifique sérieuse des problèmes qui nous confrontent en ce qui concerne le climat. Et je pèse mes mots parce que je sais que je marche sur des terrains extrêmement glissants où les passions l'emportent sur la raison dans cette analyse. Et nous avons assisté récemment à Paris à un colloque sur l'éthique et le changement climatique, remarquable colloque qui justement s'attaquait à ces questions. Est-ce que la science collective telle qu'elle est produite au sein d'un groupe comme le GIEC a plus de droits qu'une science individuelle qui serait publiée ici et là, mais pas nécessairement dans les meilleures revues du domaine. Il nous faut donc faire très attention à cette éthique. Il y a besoin d'une éthique. Il y a besoin de faire attention aux messages qu'on transmet. Quand les scientifiques du GIEC vous disent, il y a 4 ans, il est vraisemblable que les activités anthropogéniques sont la cause du changement climatique, et que 5 ans après ou 4 ans après, ils disent la probabilité pour que les changements climatiques soient dus aux activités anthropogéniques est devenue 90%, c'est-à-dire on est passé pratiquement de plus de 50%, un peu plus de 50% à 90%, c'est qu'il y a eu dans le cercle des spécialistes scientifiques de ce domaine une réflexion qui conduit à cette évaluation beaucoup plus inquiétante qu'elle était il y a 4 ans. Basée sur une analyse plus fine des modèles, par les modèles, et l'accumulation de nouvelles données. Et c'est comme ça que la science progresse, c'est comme ça qu'on fait des progrès en astronomie aussi. Donc la science telle que nous la faisons, nous astronomes, est un bon exemple de ce qu'il faut faire quand on regarde la science d'un objet comme la Terre et de ses fluctuations astronomiques liées à son atmosphère, sa structure, etc. Donc nous avons là un vrai problème d'éthique scientifique. Nous analysons quelles sont les conditions qui font que le climat peut varier. Nous constatons, comme M. Gore l'avait fait dans son film, ce qui n'est pas une analyse scientifique, c'est une constatation. Il peut y avoir beaucoup de causes à ce que Gore dit. Nous regardons un certain nombre de phénomènes, nous les illustrons dans ce livre, et nous nous basons sur, évidemment, les réflexions qui ont été faites. Nous avons écrit ce livre exactement pendant l'élaboration du dernier rapport du GIEC. Donc nous avons été fortement influencés par ce rapport. Et connaissant les scientifiques qui sont dans ce groupe, qui sont des gens extrêmement sérieux, des prix Nobel et des gens de ce niveau, nous n'avons pas de raison de croire que leurs conclusions sont farfelues.
Alors, certains n'ont pas hésité à parler de l'entrée dans une sixième extinction de masse. En tout cas, quand on regarde encore une fois avec l'échelle géologique, le temps est important dans cette affaire-là, mais nous serions entrés, selon certains spécialistes, enfin, qu'ils soient climatologues ou spécialistes de la biodiversité en particulier, sur une sixième extinction de masse. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous partagez dans l'esprit en tant qu'observateur? Et puis, pour ne pas rajouter nécessairement à une vision sombre, pessimiste, noire, mais celle effectivement d'un constat aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire autrement que de changer radicalement de destination, en tout cas de direction.
Oui, ce livre ne se veut pas pessimiste. Ce livre se veut prudent, alarmiste, mais pas pessimiste. Alarmiste dans le sens qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Car si nous continuons à vivre comme nous le faisons aujourd'hui, nous allons droit dans le mur. Et pas dans 100 000 ans, c'est dans quelques décennies. Nous allons droit dans le mur pour différentes raisons. Épuisement des ressources, plus d'énergie alternative à la disparition du pétrole, une croissance impossible à réaliser. On le voit tout de suite aujourd'hui encore. Donc il y a besoin d'un changement de cap drastique. On peut revenir sur la façon de changer le cap et qui va conduire le vaisseau. Ça, c'est une belle question, pas facile à résoudre. Les conditions de notre survie sont liées effectivement à la biodiversité aussi. Nous ne pouvons pas vivre dans une planète où il n'y aurait que des cailloux et l'homme. Il nous faut des animaux et il nous faut des végétaux. Et donc nous avons besoin de la biodiversité. Et effectivement, l'homme aujourd'hui s'attaque férocement à la biodiversité. Quoique, si on regarde ce que l'on découvre comme nouvelle espèce, on en découvre presque plus que ce qu'il en disparaît. Donc, on n'a pas encore fait l'inventaire complet. Mais néanmoins, il en disparaît beaucoup. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que celles qu'on découvre, elles existaient déjà. Donc, la biodiversité dans son ensemble, elle disparaît. Donc, en revanche, l'homme est un être vivant très particulier. Il est extrêmement particulier, l'homme. C'est presque pas un être thermodynamique, si je pourrais dire. Il a cette capacité extraordinaire de s'adapter aux changements qu'il crée. Vous me direz, c'est pas vrai, mais si, parce qu'en période de crise, on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est adapté et a survécu à des choses qui auraient pu ne pas être très sympathiques pour ses chances de survie. Donc, cette capacité que l'homme a de s'adapter à des conditions physiques et politiques, même extrêmement diverses, est une source de, je dirais pas d'optimisme, c'est pas le mot qui s'adapte, mais offre une espèce de probabilité non nulle que nous survivions si nous prenons les bonnes mesures. Et c'est notre message. Nous avons la capacité de survivre si nous prenons les bonnes mesures pour le faire.
Voilà. Alors, j'avais gardé cette question évidemment pour la fin. Et que veut dire changer ? quelle est cette ou ces orientations? Que faut-il faire aujourd'hui quand on accepte ces constats qui sont inscrits dans la durée? Pour le compte, là, il ne s'agit pas d'un constat factuel, mais depuis de nombreuses années, on a cette tendance et cette observation qui s'accentue. Quelle est la destination qu'il faut prendre pour être capable de survivre ces 1000 siècles?
Je m'étonne moi-même qu'on se pose la question, parce qu'elle a déjà été posée il y a plusieurs siècles, et en particulier en France, dans le siècle des Lumières, des gens comme Rousseau, Diderot, et tous ces extraordinaires cerveaux se sont posés ces questions. Et finalement, on se les pose toujours. Évidemment, on se les pose d'autant plus que maintenant, on arrive près des parois du vaisseau. Et donc, ça devient plus un problème philosophique du futur, mais un problème réel d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Il faut faire beaucoup de choses, et ça ne sera pas facile. Il faut d'abord arrêter d'imaginer, comme on le fait depuis le Moyen-Âge, que le futur de l'humanité est dans la croissance. Alors ça, c'est l'aberration la plus totale. Si on regarde combien de croissance on peut se permettre pour survivre 100 000 ans, c'est zéro. Vous ne pouvez pas. C'est impossible.
C'est antigravitationnel.
Ah oui,
les arbres ne grimpent pas au ciel.
C'est la divergence totale. C'est pas possible. Ouais. Et même à quelques siècles, vous ramenez une croissance qui est 3 zéros après la virgule en pourcentage. Enfin bon, c'est vraiment très, très, très petit, et c'est donc zéro. Ouais. Donc il faut arrêter d'imaginer qu'on peut continuer à survivre sur cette planète dans une optique de croissance. Alors, quels sont les systèmes politiques ou les systèmes économiques qui vous permettent d'éliminer la croissance? Alors, quelle croissance? Est-ce qu'évidemment, on ne va pas dire aux gens du Mozambique, vous arrêtez de croître? Bah, ils croissent beaucoup, parce qu'effectivement, ils sont partis de zéro. Alors, mais eux, ils sont encore très, très bas. En revanche, il y a des pays qui croissent et qui ont cru énormément. Je parle des États-Unis, par exemple, qui ont un niveau de vie qui est nettement supérieur à celui des habitants de la planète, et en particulier des plus pauvres. Il y a des facteurs énormes de différence. Donc cette croissance, c'est plus la panacée universelle. J'ai parlé à un économiste il n'y a pas longtemps. Lui, il définissait la croissance qu'on voit aujourd'hui comme étant mesurable par la quantité de paysans qui sortent des champs de la Chine et qui vont travailler dans les villes de la Chine. Alors, s'il y en a plus qui vont de la campagne dans les usines, on est en période de croissance. Aujourd'hui, on voit bien que les paysans qui étaient partis de leur campagne, ils retournent à la campagne, période de décroissance. C'est un bon paramètre, c'est une bonne image. On ne peut pas se permettre cette... Parce que quand il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de croissance, puisqu'ils seront tous dans les usines. Donc il y a effectivement une limite à la croissance, même si aujourd'hui on ne l'a pas atteinte. Il va falloir s'y habituer.
Donc changer de paradigme.
Deuxièmement, les ressources. Les ressources minérales. Le recyclage. Ça ne donne pas 100% de disponibilité des ressources. Si on en perd 10%, on ne va pas aller très loin. Donc il faut faire des recherches sur les ressources alternatives. Recherche scientifique, recherche technologique. L'énergie. Recherche scientifique sur la fusion nucléaire, sur les énergies alternatives, technologiques, sur des meilleures éoliennes, sur des panneaux solaires plus efficaces, etc. etc.
Économiser aussi.
Alors, économiser, bien sûr. Il faut, évidemment, l'écologie joue un rôle essentiel. Mais l'écologie d'aujourd'hui ne se préoccupe pas du paramètre qui nous semble absolument essentiel à maîtriser, qui est celui de la population sur Terre. Ça, c'est la première chose à changer. Arrêtons de surpeupler la Terre. On le disait au début de cet entretien, il y a de bonnes raisons d'espérer que l'humanité a compris le message. Pas partout de la même façon. C'est vrai qu'au Japon, alors on est strict et discipliné, on ne fait pas plus d'enfants qu'est-ce qu'il en faut. En Chine, on a pris la méthode brutale. Merci la Chine, on l'attaque pour beaucoup de choses, mais ils ont pris la position extrêmement dure et pas toujours facile à mettre en œuvre de n'avoir qu'un enfant par famille. Ça a des inconvénients, ça a des avantages. En tout cas, pour la planète, ça a des avantages. Sinon, s'il y avait 3 enfants par famille, vous vous rendez compte, on aurait presque 4 milliards de Chinois. Donc, ça fait beaucoup. en Inde, l'Inde continue à augmenter. Donc, ça, c'est un problème. C'est un des continents qu'il faut vraiment contrôler de ce point de vue-là. L'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050. Le sida n'a aucun effet sur cette augmentation de la population, et sur c'est pas un facteur de régulation aujourd'hui. Les pays de l'Europe, les pays, les États-Unis sont vraisemblablement ont atteint leur niveau correct. Pourquoi ? C'est les pays où il y a le plus, comme au Japon, une éducation extrêmement poussée, donc on fait attention à ce problème-là. Mais comme on le disait, finalement, le message passe, et il est vraisemblable qu'en 2100, on sera au-dessous de notre limite théorique de 11,5 milliards d'habitants.
Mais qu'est-ce qui vous rend optimiste, justement, dans le fond, hein, nous pouvons le faire, 100 000 ans, c'est quelque chose que nous pouvons franchir aujourd'hui. Certes, il nous faudra changer, et très rapidement, etc. Mais qu'est-ce qui vous rend optimiste ? S'agit-il de raison ou de foi ?
Non, c'est pas, c'est une constatation. C'est pas, c'est la foi, c'est pas une constatation. La foi, c'est une croyance. je suis sur la base de l'expérience, j'ai pu constater que l'homme est capable de s'adapter dans les circonstances les plus graves. Il s'est adapté dans les sièges des villes comme Leningrad pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme dans d'autres endroits aujourd'hui sur la planète. L'homme s'adapte dans les conditions absolument adverses. C'était effrayant. L'homme est capable de s'adapter. Nous avons vécu une période de croissance immense, irresponsable, je dirais presque, dont nous bénéficions et dont nous allons bientôt être les victimes, parce qu'il va falloir revenir à des réalités plus correctes. Auparavant, nous habitions, nous étions dans des conditions, nous survivions très bien, nous étions même en présence de croissance démographique, donc au Moyen-Âge. Mais on vivait beaucoup moins bien que maintenant. On avait froid, il y avait de la neige partout. Enfin,
c'était terrible. Moins vieux.
On vivait moins vieux. Alors, il faut s'adapter à ça aussi. On vit plus vieux. La science a fait des progrès considérables qui assurent la longévité de l'être humain. Les conditions d'hygiène sont devenues considérables. Il y a eu des progrès énormes qui ne sont pas nécessairement des progrès liés à la croissance. La croissance a permis de les obtenir, mais on peut les obtenir différemment. Il faut penser les choses différemment. On est capable de s'adapter à des régimes politiques différents, mais là, il va falloir trouver un régime politique qui soit capable de nous assurer la survie sur la base des ressources limitées qui sont les nôtres. Et le système dans lequel nous vivons aujourd'hui sur la plupart des régions du monde, le système libéral à l'extrême, n'a aucune chance de nous permettre de survivre. Nous avons un vrai problème de ce côté-là.
Voilà qui est dit. Survivre 1000 siècles, can we do it? Yes, we can. Roger Maurice Bonnet et Lloyd Voger, donc c'est chez Springer, et évidemment, ben, je l'espère bientôt en France, mais en tout cas dans Ciel et Espace aussi tout prochainement. Merci Roger Bonnet d'être venu nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain épisode.